cours d'économie.
Bonsoir. Dans la suite de notre série de productions sur la culture du cacao en RDC, nous vous proposons ce soir d'écouter le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC. Il répond à la plainte des producteurs du cacao qui estiment être abandonnés à eux-mêmes. Le trafic ferroviaire est interrompu entre les villes de Mwene-Ditou dans la province de Lomami et Kananga dans le Kasaï central pour au moins un mois. Cela à la suite de l'éboulement de terre qui s'est produit samedi dernier sur la voie ferrée entre les gares Kélé et Loubi au point kilométrique 505 et 506 dans le groupement de Bungu, village Mbukula. La SNCC, qui le dit, regrette le manque à gagner que cet incident entraîne aussi bien pour l'entreprise que pour les opérateurs économiques. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Écho d'économie que nous ouvrons par notre série de productions sur l'exploitation du cacao en RDC. Cette culture se pratique un peu partout dans le pays, mais plus dans la province du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Rutshuru et de Beni. Cependant, les producteurs disent être abandonnés à eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux se regroupent quand même en coopérative pour exercer leurs activités et résoudre ensemble tant soit peu leurs problèmes et relever ensemble leurs défis. Que fait l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, pour appuyer ses opérateurs? Écoutons à ce sujet la réponse de Guillaume Paté, directeur général de l'ONAPAC, au micro de Jocelyne Moussaou.
Pour l'histoire, pour tout le monde qui me suit à ce moment ici, même les grands exportateurs du cacao à l'est du pays, ESCO, avaient reçu le financement de l'ONAPAC. L'ONAPAC lui a financé l'argent pour devenir grand exportateur. Donc, l'ONAPAC, dans ses missions, n'a pas défailli, n'a pas mal travaillé. C'est les exportateurs qui n'ont pas rémunéré l'ONAPAC. Je crois, vous m'avez posé la question, le cacao n'est pas produit seulement à l'Est. Le cacao est produit toute la République démocratique du Congo. Je peux vous dire, dans la province de Maïndom, dans la province de l'Est équateur, dans la province de l'Ex-Oriental, on produit le cacao. C'est ainsi que j'ai quand même les statistiques que je vais donner. Dans une année déjà, avec l'encadrement de l'ONAPAC, on va arriver plus de 100 tonnes, 100 000 tonnes de cacao que le Congo va exporter. Et je crois avec la politique de l'industrialisation, je crois on va produire des cacao, des chocolats de bonne qualité à RDC.
Dans le même chapitre, nous allons en Ituri, où le prix du kilo de cacao a presque doublé sur les marchés locaux du territoire de Mombasa. Il se négocie actuellement à 2,9 contre 1,9 dollars américains il y a cela deux semaines. L'activisme des groupes armés sur les axes Komanda Luna et Komanda Mombasa Beni, ainsi que le délabrement des infrastructures routières sont les principaux facteurs à la base de cette hausse de prix, précise l'administrateur de l'entreprise ESCO Kivu, chargé de la commercialisation et de l'exportation de la fève. Les agriculteurs ont presque vidé toutes les zones de production du côté de Mombasa et de Irumu à cause des attaques à répétition de groupes armés, notamment des ADF. Écoutons Jacques Matumo au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Nous savons que la sécurité, elle est très très grande dans les villages de production. Dans les champs, il y a beaucoup de risques. Les paysans ont peur, mais ils sont obligés d'aller dans leurs champs pour trouver à manger. Donc cette sécurité a vraiment mis l'économie de nos deux provinces par terre. Voilà pourquoi nous sommes impatients de voir la fin de cette sécurité pour que les entreprises qui investissent dans les secteurs agricoles puissent améliorer les chiffres d'affaires, créer les emplois et permettre aussi les gens à travailler, à être honorés ou à mener une vie qui est normale.
Dans la province de Lomami, je le disais, le trafic ferroviaire restera interrompu entre les villes de Mwene-Ditou et Kananga dans le Kasaï central pendant plus ou moins un mois. Ceci à cause de l'éboulement de terre qui s'est produit samedi dernier sur la voie ferrée entre les gares Kélé et Loubi au point kilométrique 505 et 506 dans le groupement de Bungu, village Mbukula, dans le territoire de Kamiji. Cet incident entraîne un manque à gagner énorme pour la SNCC qui accueille régulièrement plusieurs tonnes de produits manufacturés et vivriers en provenance de Kinshasa. Déjà, certains produits vivriers, dont le maïs, ont vu leur prix augmenter sur le marché de Mouneditou. Explication d'Esther Ndalafina.
La première conséquence remarquable, c'est cette immobilisation à Kananga depuis samedi dernier du train Colombe de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Il pourra rester dans cette zone jusqu'à la fin des travaux. Cette situation constitue un véritable manque à gagner pour la SNCC qui ne peut plus organiser une autre rotation des trains Colombes. Un autre manque à gagner important pour la Société nationale des chemins de fer du Congo est la suspension momentanée de transport des produits manufacturés et vivriers au niveau du port d'Ilebo qui accueille par mois plus de 100 000 tonnes de produits à transporter par la voie ferrée vers Kananga, Mouneditou et Lubumbashi. Autre conséquence, c'est la rupture des stocks qui risque d'entraîner la hausse des prix sur le marché de certains produits qui proviennent de Kinshasa par la voie fluviale vers le port d'Ilebo pour être acheminés à Kananga, à Mouneditou et à Lubumbashi par la SNCC. Des produits tels que le carburant qui provient de Lubumbashi risquent d'être rares sur le marché de Kananga. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Un mot sur l'économie verte dans ce numéro d'Écho d'économie sur Radio Okapi pour parler de la formation de 6 jours administrée aux pépiniéristes du Maniema. Le projet Pired Maniema les initie à la fabrication de pots écologiques pour les pépinières. Une 60aine d'agronomes de différentes organisations subventionnées par le Pired Maniema y participent pour le reboisement d'agroforesterie et les bois d'énergie. Mourou Lazigabe Guido, éco-entrepreneur et expert en recyclage des déchets biodégradables du Sud Kivu, est le formateur. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
Je suis venu donner une formation sur la valorisation des résidus agricoles. Je suis en train de former les pépiniéristes du Maniema sur la transformation des résidus agricoles en pots écologiques à base de fibres de banane comme une alternative aux sachets polyéthylène qu'ils utilisaient pour le développement des pépinières. Le souci veut que nous puissions sortir de l'activité de reforestation tout ce qui est pratique non durable, c'est-à-dire l'utilisation des sachets polyéthylène. Le constat, c'est que, premièrement, les sachets polyéthylène coûtent cher, sont importés des provinces voisines, mais aussi ne sont pas dégradables. Un sachet, il se dégrade après 400 ans. Donc, ces effets sur l'environnement sont à long terme. Alors, pour pouvoir éviter tous ces dégâts, tous ces dangers, on a alors mis en place cette technique de transformation des résidus de bananes en pots écologiques. Le but visé, c'est d'équiper ces pépiniéristes de techniques de valorisation des déchets ou résidus agricoles qui manipulent au quotidien, mais aussi c'est rendre l'activité de la reforestation durable. L'autre visé, c'est qu'à partir de ces techniques, des entreprises puissent naître ici au Maniema, que ceux qui ont appris ces techniques arrivent à développer des stratégies de pouvoir en vivre, c'est-à-dire mettre en place des petites entreprises, pouvoir convertir les résidus des champs en pots écologiques qui peuvent être vendus et servir maintenant pour le pépiniériste ici localement.
Écho d'économie. Vous l'avez compris, place à présent à l'invité de l'économie. La RDC dispose d'un large potentiel agricole, mais qui reste inexploité. À titre illustratif, le coût des importations en nourriture est estimé à plus ou moins 5 milliards de dollars l'an, selon les experts. C'est beaucoup trop, de l'avis de Dr Sanginga Nteranya, président de l'Institut africain de leadership agricole. C'est cette organisation qui s'occupe de la mise en œuvre des activités de la transformation agricole pour soutenir le volet agriculture du programme de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Dr Sanginga Teranya est l'invité de l'économie ce soir. Il répond aux questions de Cynthia Bachizina Bizana.
Dr Sanginga, bonjour.
Bonjour, madame.
Dites-nous, c'est quoi exactement l'agenda de transformation agricole de la RDC?
Il faut transformer l'agriculture ici dans notre pays. Pour vous donner quelques éléments, pour le moment, nous importons à peu près 5 milliards de nourriture comme les riz que nous pouvons produire localement. Nous avons, disons, des bonnes zones où la production peut se faire, disons, d'une façon indépendante, mais malheureusement nous continuons à importer, donc il faut changer cette donne. Je suppose que vous avez suivi l'interview, disons, du président de la République. En fait, ça c'était parmi les premières priorités, disons, en fait, qu'il a annoncé pour le futur, qu'il faut absolument arriver à produire ce que nous devons manger ici. Qu'est-ce que ça signifie tout simplement 5 milliards d'importations? Ça signifie que nous créons de la richesse en Thaïlande et en Inde où nous importons ce que nous pouvons produire ici. Qu'est-ce que ça signifie encore une fois de plus? Si nous avons 5 milliards de dollars que nous pouvons investir dans l'agriculture, surtout dans la jeunesse qui va s'intéresser, disons, à l'agriculture, et pratiquement j'avais fait un calcul où nous pouvons prendre pratiquement 1 million des jeunes, vous payez tout simplement 500 dollars par mois. Et puis, ce sera un investissement, bien entendu, très profitable au pays.
Et donc, pour y arriver, vous misez sur la jeunesse?
Nous visons sur deux choses. Évidemment, la jeunesse, parce que, disons, les agriculteurs sont des êtres humains. Puis, l'âge moyen, disons, ici chez nous, de l'agriculture, c'est comme mon âge, 60 ans plus. On ne peut plus continuer, disons, en fait, à utiliser l'agriculture archaïque. Alors, les jeunes, les nouvelles technologies, disons, en agriculture, qui seront pratiquement très performantes et intéressent les jeunes parce qu'ils ont, en fait, tous les aspects digitaux que les jeunes utilisent pour le moment, que l'agriculture de précision demande. Donc, il y aura certainement, disons, voies et moyens de convertir les jeunes actuels pour commencer à prendre l'agriculture comme un business, mais pas comme une punition, comme on l'a dit.
Donc, vous dites que la RDC importe pour plus ou moins 5 milliards. Alors, comment est-ce que vous pensez arriver à inverser la donne?
Et nous avons déjà commencé à inverser cette tendance depuis 2022, où le président de la République nous avait confié, disons, en fait, quand j'étais directeur général de l'IITA, à devenir, disons, supporter techniquement, disons, en fait, le pays. Et nous avons tout simplement pas inventé la roue parce qu'au Nigeria, en 2011 et 2015, le Nigeria était dans la même situation et en 3 années, en adoptant, disons, cette transformation agricole, nous avons pu changer la donne complètement en 3-4 années. Bon, alors ici, au pays, c'est pratiquement, peut-être copier tout ce que nous avons fait au Nigeria, ça signifie quoi? Disons, en fait, que l'agriculture doit être un business. Nous devons choisir des chaînes de valeur pratiquement qui offrent des opportunités d'emploi, de transformation pour les jeunes, transformer les manioc par exemple. Et pourquoi importer, disons, tant de blé alors que nous avons une technologie qui fait en sorte que nous pouvons avoir, disons, des pains panifiables à base de manioc.
Mais concrètement ici, quels sont les résultats que vous pouvez nous présenter?
Pratiquement en 2 ans, par exemple, pour vous parler du manioc, tout simplement. Le manioc a toujours été planté de manière très traditionnelle. Et puis, le manioc ici chez nous, utilisé tout simplement pour les fofou. Mais alors, disons, au Brésil, il y a 46 produits dérivés du manioc qui sont industriels. La Thaïlande a fait sa richesse à cause du manioc industriel. Alors maintenant, ici chez nous, nous avons créé, disons, peut-être, disons, la première technologie sémencière du manioc, où le manioc, ça ne se cultive plus tout simplement quoi, avec des boutures qu'on doit transporter et qui sont de vieilles variétés. Ici à Kalambo, ici, vous allez avoir l'opportunité de visiter le laboratoire. On produit, disons, le manioc, la semence de culture de tissu, et qu'on peut transporter dans des cartons et puis aller planter. C'est vraiment très facile.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Dr Sanginga. Merci, Cynthia Bachizi. Grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Réécoutez au plaisir sur www.radiookapi.net, ce numéro de Écoute économique qui est à présent terminé.